Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, et que je vous raconte en suivant un ordre alphabétique un peu aléatoire, au gré de l'actualité ou tout simplement de mes envies. Retour sur notre rendez-vous conte de la semaine dernière, au cours duquel je vous avais raconté l'histoire de la licorne du Mont-Saint-Michel. Quelques fidèles auditeurs et auditrices m'ont fait part de leur déception quant à la pauvreté du style dans l'écriture de cette histoire et de leur soulagement quant à la fin de l'émission. J'ai avoué, entre guillemets, que cette histoire avait été rédigée à ma demande par l'application d'intelligence artificielle ChatGPT, application qui sème la tempête depuis plusieurs mois à travers la planète. J'ai donc testé pour l'émission ses compétences littéraires qui s'avèrent en effet, pour l'instant, très faible. Eh bien, c'est rassurant finalement. La littérature, les vrais auteurs aussi, et les véritables amateurs et amatrices de lecture sont toujours vivants. Comme d'habitude, je vais commencer l'émission par un document sonore. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Il s'agit du tout début d'une messe. Une messe diffusée sur France Culture le 1er novembre 2022, le jour de la Toussaint. Cela dure quelques instants et vous verrez quel rapport inattendu il y a avec notre invité de ce jour, Monsieur Benoît Dugas, dont le nom est cité par le présentateur au bout d'une dizaine de secondes.
Chers auditeurs, bonjour. En cette solennité de la Toussaint, nous sommes à la cathédrale Saint-Spire à Corbeil-Essonne. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Frédéric Gatineau, responsable du secteur pastoral de Corbeil-Saint-Germain. Alors que vous entendez Gérard Sablier, les chants seront animés par l'ensemble vocal Ad Parnassum avec Florence Tosi, Xavier Quignon, Benoît Dugas et Mathias Lakix.
Pour ce rendez-vous compte qui suit Pâques, je reçois donc Monsieur Benoît Dugas. Un personnage étonnant, professeur, artiste, compositeur, comédien et même administrateur d'un grand théâtre parisien. Benoît Dugas qui compose régulièrement des chants religieux, des messes en particulier, comme celle diffusée sur France Culture le jour de la Toussaint. Benoît est professeur d'éducation musicale, ouais, on ne dit plus prof de musique, à Notre-Dame de Bury à Margency, un établissement catholique, ce qui lui permet de conjuguer ses compétences pédagogiques et sa foi chrétienne, comme il va nous l'expliquer. Bonjour Benoît.
Bonjour Didier.
Vous êtes professeur d'enseignement musical dans un collège-lycée de la région. À quel niveau de classe enseignez-vous ?
Alors j'enseigne à des cinquièmes et à des troisièmes. J'ai toute la division de cinquièmes, donc six cinquièmes, et la moitié de la division de troisième, donc troisième sur les six dans le collège où je suis.
Combien d'élèves environ ?
Ils sont 34 par classe, donc je devrais le savoir exactement, mais je ne le sais pas exactement. 9 fois 34, ça fait beaucoup, 200...
300 quoi en gros.
Ouais, c'est ça, plus proche de 300, hein, voyons. Enfin voilà, beaucoup en tout cas.
Selon quels principes, quelles valeurs, quels objectifs exercez-vous cet enseignement ?
Alors... très bonne question. Moi, c'est, j'essaye vraiment de, comment dire ça, j'allais dire de former des citoyens, mais j'aime pas beaucoup ce mot de citoyen, de former des êtres humains plutôt, voilà, d'élever des êtres humains. Donc on pourrait dire que ce sont selon les principes humanistes. Alors, il se trouve que j'enseigne dans un établissement catholique, non seulement catholique, mais même un établissement mariste, donc c'est confessionnel, c'est encore, on va dire, encore plus catholique, peut-être. Je peux librement à mes élèves dire que je suis chrétien et leur parler de religion. Et j'avoue que ce me serait difficile autrement, parce que c'est vraiment... la religion est une partie très, très importante de ma vie, la plus importante, en réalité. Donc j'ai pour moi, le fait de leur enseigner la musique, et vous savez que c'est, on dit plus professeur de musique, mais d'éducation musicale, ce que je trouve très bien, parce qu'effectivement, le but, c'est de les éduquer à la musique, de les éveiller à la musique, donc à apprendre, écouter, parler de musique, de toutes les musiques. Et donc j'aime bien ce nom de professeur d'éducation musicale. Et moi, je leur parle de tout. C'est-à-dire que quand on parle d'une œuvre de musique, je vais parler aussi bien du texte, donc du français, des références religieuses, donc de la Bible. Donc voilà, pour reprendre votre question, selon quels principes, quelles valeurs, quels objectifs j'exerce cet enseignement, ce sont vraiment les valeurs humanistes et même chrétiennes, je peux le dire, puisque je suis dans un établissement chrétien. Et mon objectif, c'est vraiment de les éveiller à toutes les choses qui me semblent le plus importantes, c'est-à-dire la religion, l'humanité, la langue française et la musique. Et donc là, parce que je considère que on peut bien sûr, mais pour vivre bien, pour avoir une chance de vivre bien dans un pays, la première chose, c'est de bien maîtriser la langue. Et donc je leur parle énormément français, de la langue française, je veux dire, dans mes cours. Et je trouve que ça se marie parfaitement à l'enseignement de la musique.
Est-ce que vous pensez que vos élèves comprennent et appliquent ces principes, notamment sur la religion ? Est-ce qu'ils vous en parlent ?
Alors, c'est une excellente question, mon cher Didier, parce qu'effectivement, je viens de dire des très belles choses, des très beaux principes. Qu'est-ce qu'il en reste ? Une fois que les élèves quittent le collège, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Alors, je pense que ça leur parvient, et c'est déjà ça, parce que je les aime, parce que j'aime être au milieu de toute cette jeunesse et parler avec elle et échanger avec elle et que j'apprends beaucoup d'eux aussi. Et ça, je sais qu'ils le sentent, que j'aime être là, que je fais pas ça comme un pince-somme ou pour gagner de l'argent ou pour je ne sais quelle autre raison. Donc je pense que ça leur parvient. Et je sens que ça leur parvient. Après, qu'est-ce qu'il en reste ? Moi, je me dis toujours, par rapport à l'enseignement musical, là, vraiment strict, que moi, un de mes objectifs, c'est que si, dans tous ces élèves que je vois en cours d'année, s'il y en a un ou une qui a une appétence particulière pour la musique, et en plus du talent, eh bien, que celui-là ou celle-là, mon objectif, c'est que, à travers mes cours, il puisse se dire oh, c'est donc ça que je sens en moi, c'est ça la musique, et que du coup, il puisse franchir le pas, s'y mettre et découvrir son propre talent musical. Ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et pour tous les autres qui, soit n'ont pas d'appétence pour la musique, ce qui peut tout à fait arriver, enfin, je veux dire, il n'y a aucun jugement là-dessus, évidemment, soit peut-être de l'appétence mais aucun talent, bref, pour tout un tas de raisons qui ne seraient pas intéressées par la musique, eh bien ceux-là, j'espère qu'ils vont profiter de tout ce que je fais passer en plus, c'est-à-dire justement les valeurs humanistes, chrétiennes, citoyennes, et la langue française, de bien apprendre à parler, c'est-à-dire à penser, parce que moi, je suis persuadé que la parole crée la pensée, c'est pour ça que je pense qu'il est très important de bien s'exprimer, parce que ça, c'est comme ça qu'on pense aussi. Donc voilà, voilà ce que j'espère qu'il en reste.
Alors, quelles œuvres étudiez-vous avec eux? Enfin, ça dépend des niveaux de classe aussi, je pense.
Oui, alors, moi, je pense qu'il faut, si on regarde les programmes de l'éducation musicale, de l'éducation nationale, on est très très libre, ce que je trouve très bien, parce que c'est quand même, l'art sans la liberté, je ne sais pas trop ce que ça pourrait vouloir dire. Donc du coup, je pense que chaque professeur d'éducation musicale fait ce qu'il connaît et ce qu'il aime. Donc moi, c'est ce que je fais en tout cas, ce que je connais et ce que j'aime. Et moi, ce que je connais et ce que j'aime, c'est vraiment les périodes baroque, classique et romantique. Romantique déjà un peu moins, mais vraiment baroque et classique, là, ça c'est vraiment le cœur de ce que j'aime et de ce que je connais. Donc je leur parle beaucoup, évidemment, de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, de Beethoven, de Schubert, hein, qui sont pour moi la tétralogie sainte, Bach, Beethoven, Mozart, Schubert. Alors ça, c'est ce dont moi je leur parle, mais je fais une autre chose dans mes cours qui m'a été soufflée par ma chère et tendre épouse, et je leur remercierai jamais assez. Et mes élèves non plus, d'ailleurs, parce que c'est ce qu'ils préfèrent, évidemment, dans mes cours, c'est que je commence chaque cours par une biographie présentée par un élève qui s'est porté volontaire la fois d'avant. Donc, au début, ils pensent qu'il faut faire une biographie d'Albinoni, de Mozart, de Clementi, de Eric Satie, jusqu'au moment où ils osent me demander « Mais monsieur, on peut faire n'importe quel musicien ?» Je dis « Oui, oui, bien sûr. » Et ils me disent « Mais même des musiciens d'aujourd'hui ?» Je dis « Oui, oui, bien sûr. Même des rappeurs, monsieur ?» Je dis « Oui, oui, bien sûr. » Et du coup, à partir de ce jour-là, quand j'ai dit ça, j'ai plus que des rappeurs, bien entendu. Alors bon, c'est la partie sacerdoce, si vous voulez, de mon moment, parce que pendant 10 minutes ou un quart d'heure, on parle du rap et on écoute du rap à chaque début de cours. Et ça, je dois dire que si je pouvais m'en passer, je le ferais. Même s'il y a des très belles découvertes, notamment un clip de Big Flo et Oli. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Didier. Bon, moi, ça ne me disait rien, évidemment. Si, d'ailleurs, mes enfants m'en avaient parlé. Et ce clip s'appelle « Rentrez chez vous ». Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est extraordinaire. Je conseille à tout le monde de regarder ça. C'est bouleversant. Chaque fois qu'il y a un élève qui me le montre, moi, je pleure. Ça les fait beaucoup rigoler parce que c'est absolument magnifique. Donc, si, j'apprends aussi.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo.
Grâce aux élèves de Benoît, petite dédicace à eux, une dédicace et un grand merci pour nous avoir fait découvrir cette chanson tout à fait étonnante de Big Flo et Oli, les deux frères rappeurs toulousains, sacrés deux fois victoire de la musique en 2019 dans les catégories meilleur artiste masculin et album de musique urbaine. Cette chanson, Rentrez chez vous, commence très fort, vous l'avez entendu par « Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel ». La chanson, le film d'animation qui la met en image, est en effet très politique. La chanson raconte le parcours chaotique de migrants contraints de quitter leur pays en guerre, de traverser la Méditerranée et de trouver refuge dans un pays où l'on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils doivent donc rentrer chez eux. La force de cette chanson, c'est que le pays en guerre, c'est la France, et que le pays qui les accueillera se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. La réalité inversée, quoi. Quoi en effet émouvoir Benoît, notre invité, prof d'éducation musicale, mais émouvoir également tout être humain, rendez-vous compte. On retrouve Benoît qui apprécie de découvrir les chanteurs qu'aiment ses élèves, mais à une condition, on écoute.
Alors maintenant, je l'aurais interdit, parce que ça, je n'en peux plus tout simplement, l'autotune. J'ai dit, vous prenez ce que vous voulez, mais il ne faut pas qu'il y ait d'autotune. Donc si vous voulez me passer Damso ou Eminem, ou je ne sais qui, vous choisissez une chanson où il n'y a pas d'autotune, parce que ça, je ne supporte plus. Ça me fait une impression de dégueulis, je ne supporte pas ça.
Vous pouvez définir ce que c'est que l'autotune ?
Oui, enfin, ce que je crois en savoir, hein, parce que je suis pas du tout un expert, et j'en suis ravi de ne pas être un expert. Pour moi, l'autotune, ça a d'abord été introduit pour les chanteurs qui chantent pas juste, hein, tout simplement. Donc c'est pour ajuster le ton, comme son nom l'indique en anglais. Donc j'imagine qu'au début, on conservait la voix du chanteur, typiquement Renaud Séchant, qui a jamais chanté très juste, mais qui maintenant, c'est carrément horrible, le pauvre. Et donc maintenant, il est soutenu entièrement par l'autotune, mais c'est l'autotune, on va dire, j'ai l'impression, du début de l'autotune, des temps jadis, déjà, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on garde la voix de Renaud et juste, on essaye qu'elle soit juste. Mais aujourd'hui, ils utilisent l'autotune pour faire une espèce de voix synthétique qui fait qu'ils ont tous la même voix. C'est ça que je ne supporte pas. Et ça fait une espèce de... Enfin, je déteste ça, vraiment. Ah, vous voyez, là, je sors de cours, du coup, je n'en peux plus. Donc, maintenant, je leur ai dit, pas d'autotune.
Autotune, cet extrait du magazine Entrée libre de Claire Chazal sur France 5 le 18 octobre 2018 vous explique l'origine de cette pratique musicale, entre guillemets, que ne supporte pas Benoît, notre invité de ce rendez-vous compte.
L'autotune est un logiciel miracle qui permet depuis 20 ans de gommer les imperfections vocales. Le tube de Cher, Believe, a été le premier en 1998 à révolutionner l'enregistrement et le traitement de la voix et il a battu tous les records de vente. Aujourd'hui, pour les Daft Punk ou Lady Gaga, tous les studios sont équipés de l'autotune, une mode incontournable, parfois agaçante, mais toujours efficace, dont nous parle Chloé Thibault.
Vous vous souvenez ? En 1998, Cher nous parlait d'amour avec une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Métallique, robotique, la chanteuse a été la première à utiliser l'autotune. Un effet spécial qui a depuis envahi l'industrie musicale.
En fait, il n'y a quasiment pas une musique où il n'y a pas d'autotune.
Pour certains, c'est devenu un instrument de musique à part entière.
Alors vous retrouvez la suite de ce reportage, le son d'autotune, sur YouTube, évidemment. Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à la lettre B, B comme Benoît, Benoît Dugas, professeur d'éducation musicale au collège-lycée Notre-Dame de Bury, qui nous parle maintenant de son autre activité artistique. Vous êtes également compositeur.
Oui.
Pouvez-vous nous expliquer quels sont vos compositeurs préférés ? Vous en avez un peu parlé. Vos œuvres préférées, vous en avez parlé. Vous êtes compositeur, donc.
Oui, alors je suis compositeur, donc... de musique, on va dire, très précise, très spécifique plutôt, voilà, très spécifique, puisque d'abord je ne compose que de la musique vocale, je n'ai jamais composé pour instrument, je pourrais peut-être le faire, mais c'est pas ça qui m'intéresse, donc je le fais pas. Donc je compose que de la musique vocale, polyphonique, parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la polyphonie, donc l'harmonie et le contrepoint. Et en plus, encore plus spécifique, je compose presque exclusivement que de la musique non seulement sacrée, mais même liturgique, c'est-à-dire de la musique à destination des cérémonies religieuses, en l'occurrence catholiques. en ce qui me concerne. Donc ça veut dire que je compose des messes, des passions, des requiems, des psaumes, des cantiques, des hymnes, enfin voilà, tout ce dont on a besoin pour célébrer la liturgie catholique.
Mais comment compose-t-on une messe ? Pour moi, qui ne suis pas un spécialiste, on va dire, je pensais que la messe était éternelle en quelque sorte et qu'on n'innovait pas.
Ah oui, alors le texte est éternel. Et ça, le texte, évidemment, on n'innove pas, on n'y touche pas. On n'y touche pas, on y a touché une bonne fois pour toutes avec le Concile Vatican II, quand on est passé de la liturgie en latin pour toutes les églises catholiques du monde à la liturgie, ce qu'on appelle en termes savants, en langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue du lieu, quoi, du patelin. Donc le français en France, l'allemand en Allemagne, etc. Donc là, on y a touché, mais depuis, les traductions sont déposées et on n'y touche pas. C'est-à-dire que... Donc voilà, on ne touche pas au texte. Mais en revanche, la musique, là, on fait ce qu'on veut. Du temps, même du temps de la liturgie en latin, les compositeurs composaient des messes. Donc il y avait la liturgie grégorienne, on va dire classique, celle-là qui est vraiment multiséculaire pour le coup, puisqu'elle a maintenant plus d'un millénaire, 1500, même 1700 ans. En gros, le grégorien commence vers l'an 300, donc ça fait très longtemps. Donc on a les mélodies grégoriennes héritées de la tradition, qu'on chante toujours d'ailleurs, mais les compositeurs ont toujours composé des messes. Il y a des messes de Palestrina, il y a des messes de Mozart évidemment, de Bach, de Beethoven, de tout le monde, qui étaient à l'époque en latin. Aujourd'hui, elles sont en français, c'est la seule différence. Mais donc, on a toujours composé des messes, on a toujours eu le droit de mettre en musique, et même non seulement on a toujours eu le droit, mais on a toujours été invité par l'Église, les compositeurs ont toujours été invités à écrire de la musique pour la liturgie. Donc, alors, dans une messe, il y a ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, ou la kyriale de Kyrie eleison, qui est le premier morceau de l'ordinaire. Ça, c'est ce qui se chante à toutes les messes. Et donc, quand on dit une messe de Mozart, ou une messe de Beethoven, ou une messe de Liszt, de Chopin n'a pas écrit de messe, bon, mais, ou de moi, par exemple, ça veut dire ça, ça veut dire en fait l'ordinaire. Donc, l'ordinaire, il y a quatre morceaux, ou cinq, on va voir, quand je les aurai dénombrés, parce que... Le Kyrie eleison, qui veut dire « Seigneur, prends pitié », qui est le premier morceau de l'ordinaire, qui se dit à toutes les messes. On commence la messe par demander pardon au Seigneur pour tous les péchés qu'on a commis, donc Kyrie eleison. Le deuxième morceau de l'ordinaire, c'est le Gloria, le gloire à Dieu. Le troisième morceau de l'ordinaire, c'est le credo, la profession de foi, je crois en un seul Dieu, credo in unum Deum, etc. Le quatrième morceau de l'ordinaire, c'est le Sanctus, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, donc à nouveau un hymne de gloire à Dieu, comme le gloire à Dieu. Et enfin, le cinquième morceau de l'ordinaire, c'est l'Agnus Dei, Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Donc composer une messe, ça veut dire composer ces cinq morceaux.
On écoute un extrait de la partie chantée de la messe composée par Benoît Dugas, diffusée par France Culture le 1er novembre dernier, en direct de la cathédrale Saint-Spire de Corbeil-Essonne. Une messe que vous avez composée a été diffusée sur France Culture pour le 1er novembre. Oui. Comment on en arrive à être diffusée par France Culture ?
Alors oui, c'est une grande chance. En plus, c'était la cinquième fois que ça se produisait, que je créais une messe sur France Culture. En fait, comme je suis compositeur liturgique depuis maintenant pas mal d'années, je dirais une dizaine à peu près, un jour, on m'a demandé, il y avait une messe diffusée par France Culture qui allait se tourner, c'est pas le mot, s'enregistrer, voilà, en direct donc, se capter en direct dans mon diocèse. Et comme j'étais dans les instances, on m'a dit « Ah, est-ce que ça t'intéresserait de composer le psaume pour cette messe ?» J'ai dit « Bah, et comment ?» Et en plus de le chanter, du coup, donc j'ai composé un psaume à trois voix pour cette messe, c'était il y a longtemps, 5 ou 6 ans, et évidemment, après, je suis allé voir le curé en question, le prêtre qui organise tout ça, et qui est le réalisateur de l'émission qui s'appelle La Messe, donc le frère Jérôme Rousse-Lacordaire, voilà, qui est dominicain. Et je suis allé le voir et je lui ai dit « Mon père, il y aurait moyen que je fasse d'autres trucs, etc. » Il m'a dit « Oui, écrivez-moi cette adresse, on prévoit, etc. » Ça s'est fait aussi simplement que ça. Et depuis, quand je veux... composer une messe. Là, c'était pour la Toussaint. Celle d'avant, c'était pour la fête Dieu. Avant, j'ai fait la Pentecôte, Noël, Pâques. Enfin, j'essaie de faire un peu toutes les grandes messes, toutes les grandes fêtes, pardon, parce que ça m'intéresse, tout simplement. Eh bien, je lui écris et on prend date. Il me dit, telle messe, elle est libre. C'est-à-dire, on ne me l'a pas encore demandé, tel jour. Donc, on prend date. Et puis voilà, après, il vient avec les techniciens. On fait les balances, on fait tout ce qu'il faut faire. Et puis, on chante en direct.
C'est une expérience quand même plus forte, peut-être, qu'une messe ordinaire qui n'est pas enregistrée et diffusée, ou c'est pareil ?
Alors, oui, bien sûr, c'est une expérience forte. Disons que c'est à la fois, du coup, une expérience spirituelle et artistique. Et évidemment, moi qui suis un fidèle catholique qui vais à la messe tous les dimanches, ces messes-là, c'est évidemment celles où je prie le moins, voire pas du tout. Pardon Seigneur, mais j'espère que j'ai prié à la Toussaint, mais ça m'étonnerait, parce qu'on est en direct, vous imaginez bien le stress absolu, le trac. J'arrive à prier dans les 2-3 moments, mais enfin évidemment que c'est... qu'on est sur la sellette, on sait qu'on est en direct. La première fois que j'ai fait cette messe pour France Culture, c'était pour Pâques. Je pensais qu'il y avait peut-être, 15-20 000 auditeurs. Donc je demande au frère Jérôme Leroux-Lacordaire, je lui dis, et c'est quoi l'auditoire ? J'étais déjà dans un stress incroyable de toute façon, et je pensais qu'il allait me répondre ce que je pensais. Et il me dit, c'est 200 000 à peu près. Alors là, le stress est monté encore de plusieurs crans. Donc oui, c'est sûr que c'est incroyable. On est là, on a juste un micro. Et puis à part ça, y a la vraie messe avec les vrais fidèles qui sont là et auxquels on se doit en premier. Qui plutôt, eux, font descendre le trac. Parce que ça, c'est comme les autres dimanches où moi, j'anime les messes tout le temps, y compris quand je ne suis pas en direct sur France Culture. Donc du coup, ça ramène au réel et on oublie tous ces gens qui vous écoutent. Et voilà. Donc ça calmerait plutôt le fait d'être aussi là pour les vrais fidèles qui sont là en chair et en os, on va dire.
En fait, ce que vous racontez, ça peut correspondre aussi avec votre autre corde à votre arc, c'est celui d'être comédien. Il y a un petit peu mise en scène pour un public quand vous faites une messe comme ça. Donc votre métier ou votre passion de comédien, vous pouvez nous en parler ?
Oui.
Eh bien, ce métier de comédien fera l'objet d'une deuxième émission. Car, croyez-moi, Benoît Dugas a encore bien des choses étonnantes à nous raconter. Au cours de notre entretien, Benoît nous a expliqué comment ses élèves lui faisaient découvrir le rap, a priori bien éloigné des valeurs chrétiennes de leurs professeurs. Éloigné, c'est à voir. Je vous renvoie à un article d'Alexia Vido, publié dans le magazine catholique La Vie du 7 mai 2021, et intitulé « Gab, un rappeur au service du Seigneur ». Article dans lequel le jeune chanteur lyonnais, Gab, explique comment il témoigne par le rap de sa passion pour l'Évangile. Autre article sur le lien rap et chrétienté, paru cette fois dans le Télérama du 20 septembre 2016, signé François Chevalier et intitulé « Un curé fan de rap cite PNL à la messe du dimanche ». Ce curé, c'est le père Emmanuel Gougou, qui officie dans la paroisse Sainte-Pauline du Vésinet. Je cite l'article. Ce dimanche matin, j'ai cité PNL, pas de parole particulière, mais leur dénonciation de notre système matérialiste et consumériste et le dualisme chez eux entre le bien et le mal. Pour moi, l'engouement que PNL suscite est symptomatique d'une société qui commence à comprendre que le matérialisme et la surconsommation ne rendent pas totalement heureux. Eh bien, cela rejoint le message de Jésus ce dimanche, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Fin de citation.
Je recrache le mot. J'ai percé avec l'argent.
Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré à la lettre B, B comme Benoît Dugas, professeur d'éducation musicale et compositeur de musique liturgique. Voilà, la messe est dite. Dans ce rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delattre sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. En attendant, voici sur le terrain l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio évidemment.